bonjour à tous. J'aimerais vous inviter à lire un passage donc dans la lettre aux Galates. Nous lirons au chapitre 5. On commencera à partir du verset 26 jusqu'au chapitre 6, verset 5. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplissez la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et il aura alors de quoi être fier par rapport à lui, et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Je dirais que être conduit par l'esprit, ou marcher par l'esprit ne veut pas dire forcément faire une expérience spirituelle qui serait constante. Ce n'est pas rechercher à faire des expériences de temps en temps, comme si je voulais remplir mon réservoir et puis je peux faire un bout de chemin et après je dois re-remplir mon réservoir. Ce n'est pas parce qu'un jour on se fait imposer les mains par un grand pasteur de 2,72 m que forcément, après, on est tout d'un coup rempli d'esprit et que tout va bien dans notre vie. D'après Steph, je crois qu'une personne qui marche par l'esprit, cela va se voir de différentes manières. Mais ici, je crois qu'elle va se voir par ses relations quotidiennes avec les autres. Des relations qui devraient être empreintes d'amour. Alors, je vous invite ce matin à reprendre différentes exhortations de l'apôtre qui nous montrent quel comportement le chrétien devrait avoir dans l'Église s'il est rempli de l'Esprit. Donc je parlerai ce matin sur trois exhortations qu'il nous donne. La première, ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Évitons de nous provoquer ou évitons de nous défier les uns les autres. Et cette parole montre que le type de relation que j'établis avec les autres reflète ce qu'il y a finalement dans mon cœur. John Stott, donc, a écrit un commentaire sur la lettre aux Galates qui s'appelle « La liberté intérieure ». Il dit que ici, le mot qui est employé en fait pour « vaniteux », ça indique quelqu'un qui a de lui-même une opinion, mais qui est sans valeur, vaine, fausse, et qu'il chérit une illusion concernant lui-même. Ce qui montre que le vaniteux, ici, ne peut pas avoir de relation qui soit saine, fraternelle avec les autres, n'étant finalement préoccupé que de lui-même et de son image. Et finalement, dans sa relation avec les autres, le but sera de montrer son super nombril. Et comme il veut à tout prix qu'on voie son nombril, il est obligé de s'élever au-dessus des autres, quitte à en écraser quelques-uns au passage. Mais il faut qu'il soit élevé quand même assez haut pour que son nombril soit au niveau des yeux des autres. D'accord ? Donc vous voyez cette petite image avec humour là, que ça peut donner. Et il y en a qui aiment bien avoir le nombril en avant. Voilà, on avait connu Superman, Spiderman, Batman, et bien maintenant il y a l'équipe des nombrilman qui arrive. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est pas en cultivant le culte du nombril que je vais grandir en Christ. C'est pas comme ça que je vais vraiment porter des fruits et avoir un comportement qui soit empreint d'amour et qui unira la communauté. Et si j'ai besoin de cultiver le culte de ma personne sans que ça me gêne d'écraser l'autre, si je me nourris de la gloire des hommes, qui est pourtant tellement passagère, alors on peut se poser la question, où est la foi de Jésus-Christ dans notre vie? Quand on est conduit par son orgueil, on a soit tendance à provoquer les autres, parfois même, c'est le contraire, on va les mépriser, mais on va souvent les défier pour montrer qu'on est le meilleur. Et vous connaissez, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, sûrement, de la Trinité infernale, John Stott en parle dans son livre. Il parle de l'orgueil qui entraîne toujours la jalousie et la jalousie qui entraîne toujours la méchanceté. Orgueil, jalousie, méchanceté, et bien voilà de quoi étaient remplis les chefs religieux du temps de Jésus, et voilà ce qui a poussé ces chefs religieux à faire condamner Jésus. Et même Pilate, un païen de première classe, verra dans le comportement des chefs religieux que c'est par jalousie qu'ils voulaient faire crucifier Jésus, parce qu'ils commençaient à prendre de la place et leur gloire à eux était en train de diminuer, leur niveau social était en train de diminuer, ils étaient plus reconnus, parce que les gens voyaient que Jésus avait l'autorité, qu'il parlait comme ayant l'autorité, il entraînait les foules, et eux finalement, leur gloire elle était en train de diminuer. Et cette jalousie les a poussés à livrer Jésus, qui prenait un peu trop de place à leur goût. Dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul dira « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Regardez les autres comme étant supérieurs à soi-même, c'est estimer que notre rôle, finalement, est de les servir. Et ce n'est pas quelque chose de naturel au cœur de l'homme, que d'aller vers l'autre pour le servir, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, on aime bien être servi. Mais même quand on sert, on arrive parfois à en tirer de la gloire. C'était Jean-Paul Herzog qui disait, c'est incroyable où l'orgueil peut aller se fourrer. Jean-Paul Herzog, c'était donc un pasteur, excusez-moi. Jésus, lui, c'est le maître, maître de l'univers, c'est le Dieu qui se fait homme, déjà une marque d'humilité incroyable. Et un jour, il s'est mis à genoux et il a lavé les pieds de ses disciples. C'est un texte pour moi qui est extraordinaire, comment le Créateur du monde a pu se mettre à genoux aux pieds de ses disciples. Je me demande qu'est-ce qu'il a pensé quand il a lavé les pieds de Judas. Et l'apôtre Jean, qui rapporte cet événement, dit qu'en faisant cela, c'est là qu'il a mis le comble à son amour. Alors qu'on peut bien sûr directement penser comment Dieu a prouvé son amour, on pense tout de suite à la croix de Jésus, et c'est juste. Mais là, pour l'apôtre Jean, c'est là que Jésus a vraiment montré à ses disciples qui étaient vraiment très proches de lui, combien il les aimait, et il leur a montré voilà ce que c'est que l'esprit de service. Si vous lisez le texte, vous comparez à Luc, juste avant, il y avait une dispute entre les disciples pour savoir qui serait le plus grand, qui serait le premier ministre. Ils étaient en train de se disputer pour les places, alors que Jésus vivait des moments incroyables, douloureux et tout. Et là, Jésus leur a donné, j'ai envie de dire, une bonne leçon, en leur montrant, mais voilà comment vous devez être. Voilà ce qui doit changer dans votre mentalité. Il n'y a pas question de se comparer, de savoir qui est le meilleur. Si vous n'avez pas un esprit de service, si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, à la limite, vous n'êtes pas digne d'être des apôtres. C'est pour ça que dans un texte un peu plus long, chapitre 15, il est parlé de cette transformation de la mentalité qu'ils ont eue, en disant, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il avait besoin de cette transformation de la mentalité. Une transformation de la mentalité, c'est une définition aussi de la conversion. L'amour est un des fruits de l'esprit qui est manifesté par le chrétien, mais c'est aussi ce qui doit le motiver, le pousser dans tout ce qu'il fait. Et le chrétien est aussi appelé à être un ouvrier de paix, et pas à lancer un défi avec les autres, à se comparer avec les autres. Il n'ouvre pas la bouche pour faire du mal, comme faisaient apparemment nos amis de Galate là. Il ouvre la bouche pour faire du bien, pour bénir. La deuxième exhortation, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Je dirais la loi de Christ qu'on pourrait la résumer par le sermon sur la montagne. La manière dont Paul donne cette exhortation va dans le sens que nous avons tous des fardeaux. Portez les fardeaux les uns des autres. Et donc que nous sommes tous appelés à les partager et à les porter ensemble. Partager ses fardeaux, ça ne veut pas dire étaler sa vie devant toute la communauté. Hein? Ça veut dire que je peux être dans un moment de la vie avec quelque chose de dur à porter, et là, dans une réunion de prière, je peux dire, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, il y a telle épreuve et tout, et je voudrais le partager avec vous pour que ça devienne moins lourd et pour que l'Église puisse prier pour cela. Je pense aussi qu'on peut aider les frères et sœurs, on peut partager leur fardeau que dans la mesure aussi où ils s'ouvrent. Parce que si je ne partage pas aux autres ce que je vis, les autres ne peuvent pas savoir et ne peuvent pas partager. Tout le monde sait ici dans cette salle que nous on a eu bien des difficultés avec notre fils Johan, et j'étais toujours encouragé quand je recevais des fois un email, un SMS, tout ça, pour dire « Jean-Pierre, on prie pour ton ministère et on pense à ton fils, tout ça, ça fait du bien. » Une fois, on peut partager dans la pudeur, on ne vous a jamais raconté tout ce qu'on a vécu avec. Mais de dire aux gens « Voilà, c'est pas facile avec notre fils en ce moment, il y a ci, il y a ça. » Et de savoir qu'il y a des gens qui prient pour vous, et quand ils vous rencontrent, qu'ils viennent vous le dire, vous vous sentez moins seul. Aujourd'hui, je viens à l'armée, il est posé, on est tranquille, hein, je précise. Donc maintenant, vous pouvez remercier, arrêtez d'intercéder. Et je vous remercie pour ce qu'on prie. Il y a des passages qui montrent dans l'Écriture qu'on peut se décharger sur Christ de nos fardeaux. Et je pense qu'on a tous expérimenté parfois dans la prière d'apporter quelque chose au Seigneur. Des fois, c'est des choses qui sont peut-être très personnelles et qu'on ne peut pas vraiment s'ouvrir à d'autres. Et puis de recevoir sa paix. Pas forcément d'être libéré, guéri, mais de recevoir sa paix. On se sent renouvelé. C'est comme si on nous avait redonné du courage pour continuer à aller de l'avant. Parfois, vous savez, dans les prières, quand vous portez des fardeaux vraiment lourds, tout ça, que vous ne pouvez peut-être pas partager, bah, parfois, si vous tenez simplement en silence devant Dieu, Dieu parle dans le silence. Et je vous assure, enfin je vous invite plutôt, à expérimenter dans des moments comme ça, à rester un quart d'heure comme ça dans le silence. Déjà, vous verrez que c'est très difficile d'être vraiment dans le silence, mais expérimentez ça, et je vous assure, vous pourrez vivre des choses vraiment fortes. Il y a des endroits, maintenant, où on commence à développer ce qu'on appelle des cultes dans le silence, rester une heure comme ça dans le silence. Dieu œuvre des fois directement dans nos vies, des fois il œuvre aussi à travers la communauté. Parfois le soutien vient directement de lui, parfois il vient de la part d'un frère, d'une sœur, parfois il vient par l'assemblée qui aide à porter, qui va intercéder pour nous. Et c'est une preuve d'amour que de porter les fardeaux les uns des autres. Et mon expérience pastorale me fait dire que tout le monde a des fardeaux. Tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes dans sa vie. Et c'est parfois drôle d'avoir, d'entendre des gens dire « Ah oui, mais telle et telle famille, ils n'ont pas de soucis dans leur vie, tout va bien et tout ça. » Puis vous, ben, vous êtes pasteur, vous savez des choses, vous ne pouvez pas dire ce que vous savez, mais vous pensez en vous-même, non, si tu savais, tu connaissais vraiment cette famille, ben, eux aussi, ils ont leur croix et ils la portent tous les jours. Hein. Alors, je crois que le livre des Proverbes, qui est d'une grande sagesse, hein, nous dit que des fois derrière un visage qui sourit, il y a un cœur qui est triste. Et même parfois les gens qui sont dans l'excès du sourire et des choses comme ça, sont parfois les gens qui souffrent le plus. Mais derrière un visage triste, il peut avoir un cœur confiant et en paix, et même dans la joie, malgré le fardeau et la souffrance. Je vous rappelle que Jésus nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il est dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Il dira aussi un tout petit peu plus loin, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite, complète, plénitude. Et à quel moment Jésus dit ça? Peut-être 2 heures, 3 heures avant d'être arrêté. Il va être arrêté, il va avoir des souffrances et tout, et pourtant, il parle de sa joie en lui qui est parfaite et qu'il veut donner à ses apôtres. Et pourtant, ses apôtres, quand Jésus va être arrêté, crucifié, tout ça, ils vont se sentir abandonnés, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Et pourtant, il leur dit que dans ces moments-là, ils peuvent avoir la joie et la paix. J'aimerais dire aussi qu'il me semble que dans l'Église, d'une manière générale, il y a ceux qui portent des fardeaux et ne les partagent pas, pour différentes raisons. Puis d'un autre côté, il y a ceux qui s'arrangent pour qu'on ne voit que leur fardeau. Mais certains disent que dans les deux cas, c'est un peu de l'orgueil. Mal placé peut-être, mais c'est quand même de l'orgueil dans les deux cas. Il y a ceux qui disent « je m'en sortirai tout seul et j'ai pas besoin des autres ». Ou il y a ceux qui ont peur que si on lui montre leur fardeau, on dit « ah, mais t'es un chrétien faible, tu vas pas bien, tu es chrétien, tu devrais toujours bien aller, hein, pour parler de ça dans la voiture ». Non, mais certaines assemblées, c'est comme ça. T'es chrétien, donc forcément, tu dois arriver au culte avec le visage souriant, tout va bien. Mais ça, on sait tous que c'est pas la vérité. Hein. Moi, je dis que dans les deux cas, c'est toujours difficile d'aider les personnes. Ceux qui partagent pas, qui disent rien, on peut pas savoir. Mais ceux qui en parlent toujours, ils finissent, hélas, par faire le vide autour d'eux. C'est-à-dire, vous n'osez même pas leur demander, excusez-moi, je pensais à quelqu'un. Pardon, vous n'osez même plus leur poser la question si ça va, parce que vous savez que vous allez vous entendre pendant 20 minutes sur tous les problèmes, et vous aurez droit aux analyses de sang et à tout ce qui s'est passé. Donc, vous voyez qu'il faut rester, il faut partager, je pense, avec intelligence. L'apôtre Paul nous montre dans sa lettre aux Corinthiens comment parfois le Seigneur nous encourage. Pas par une expérience forcément extraordinaire, mais il va dire à un moment donné où il était en prison, mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. Mais il n'est pas dit que Tite a fait quelque chose d'extraordinaire, ou qu'il avait un super message, ou qu'il est arrivé avec un super colis, ou des tartes flambées, ou je ne sais pas quoi. C'est simplement la venue d'un frère qui combat avec lui, qui est avec lui dans le ministère, l'a réconforté. La troisième exhortation, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Bon, alors combien qu'on pensait ici, de toute façon je ne suis rien. Allez, levez la main. Vous auriez le courage là? Voilà. C'est bien, merci. Hein, on a toujours tendance à se salir, à se fouetter. Vous savez, les mois de commande, flagellant, je lac et je suis mauvais, je suis comme ça, et je suis mauvais, je suis comme ça. Non, il faut arrêter. Jésus est mort sous la croix pour nous racheter, les frangins et frangines. Hein. Le contexte dans la lettre aux Galates montre que les gens se comparaient les uns aux autres, vers les super spirituels et les moins spirituels. Quand on se compare, c'est toujours pour voir peut-être si on est mieux, mais parfois on voit toujours l'autre au-dessus de nous. Il est plus engagé, il est plus spirituel, il a plus de dons que moi. Moi, je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de faire cela. C'est embêtant de penser comme ça, parce que ça contredit ce que la Bible dit. Déjà, la Bible dit qu'on a tous de la valeur aux yeux de Dieu, on est précieux à ses yeux. Et la plus grande preuve, c'est que pour toi, le Seigneur a donné son Fils, il a fait couler son sang sur la croix. Et après, le Seigneur dit qu'il a donné des dons à ses enfants. Il n'a pas donné tous les dons à quelqu'un, et surtout pas à ceux qui sont pasteurs, je vous le dis. Chacun reçoit des dons du Seigneur, et pas qu'un seul, pour le mettre en pratique. Chacun a de la valeur, chacun a sa place, chacun fait partie du corps. Hein, et si simplement vous dites, ouais, mais moi je suis comme un petit doigt de pied, je ne sers pas à grand chose, ben, on m'a dit que si on nous coupait le petit doigt de pied, on ne pourrait plus marcher parce qu'on ne tiendrait pas l'équilibre. On a tous besoin les uns des autres. L'apôtre Paul, lui, il n'est pas contre le fait qu'on dise, voilà, le Seigneur m'a donné des dons et en son nom on a pu accomplir de grandes choses et faire ceci. Il n'est pas contre ça. Il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. se glorifie peut-être de voir que le Seigneur l'utilise malgré ses faiblesses pour annoncer l'Évangile. Et l'apôtre Paul dira à un moment donné qu'il lui se glorifie bien plus de ses faiblesses parce que c'est là que la puissance de Dieu peut vraiment s'exercer. Mais il ne se plaignait pas de ses faiblesses. Il parlera de son œuvre missionnaire, mais le but n'est pas d'étaler pour épater ou pour de montrer son nombril, pas du tout. Le but est de montrer comment lui, un persécuteur de l'Église, le Seigneur l'a pris tel qu'il était pour en faire l'apôtre Paul. Au verset 5, il est dit que chacun portera sa charge. Et c'est certainement une allusion au jugement dernier, où la comparaison avec les autres ne sera plus de mise, mais où on sera seul devant notre Créateur. On rendra compte de nos actes, de nos paroles, de nos œuvres, mais on rendra compte devant celui qui est notre Père, devant celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique. On ne va pas rendre compte devant un juge sévère, mais envers un Père qui nous aime, d'un amour inconditionnel, et qui nous jugera d'une manière totalement juste. Il est celui qui sonde le cœur et qui sonde les reins, qui connaît toutes nos actions, mais surtout qui connaît une chose que personne d'autre ne peut connaître, c'est nos motivations profondes. Qu'est-ce qui nous aura poussé à faire des choses? Nous, on juge souvent les gens sur l'action sans essayer de comprendre, mais pourquoi que tu as fait ça? Me pose la question, c'est comment arriver à aimer les autres comme Christ nous a aimés. Comment vraiment porter concrètement le fardeau des autres. Je ne sais pas comment que vous vivez ça, mais parfois quand des gens vous ont partagé des fardeaux, ça a un peu l'impression que ça vous écrase. Vous n'attendiez pas à la chose, et, hein, et des fois une discussion simple avec quelqu'un, et tout d'un coup la personne s'ouvre, tout ça, et c'est pas toujours évident à porter et à gérer ça. Et s'il y a une personne, ça va, mais si dans la semaine vous en avez eu trois ou quatre comme ça, vous avez dû faire des visites, des choses difficiles, bah parfois franchement ça pèse. Et là parfois on a vraiment besoin d'avoir une vie de prière pour se décharger de ça, ou d'avoir une personne de confiance pour pouvoir partager, parce que le fardeau devient lourd pour celui qui l'a entendu, celui qui l'a reçu. Je dirais que ce n'est pas toujours facile d'avoir des relations qui sont vraiment empreintes d'amour, où vraiment on dit, voilà, vraiment dans sa manière d'être, c'est quelqu'un qui aime les gens. Hein. Ce n'est pas toujours évident. Et je me demande parfois comment on peut vraiment accomplir la loi de Christ sans devenir des légalistes. Ce n'est pas toujours facile. L'apôtre Paul dit au chapitre 5 et au verset 25, ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Il paraît que c'est la quincaillerie qui marche le mieux, c'est celle qui vend des clous pour crucifier les vieilles natures, parce que ce n'est pas du tout évident. On voit bien, hein, pour être honnête, on voit bien l'Esprit de Dieu agir en nous, on progresse si on se regarde depuis notre conversion et puis le chemin qu'on a fait, on voit bien peut-être qu'il y a eu des changements, des choses qui ont été abandonnées, et puis les autres nous disent, tiens, t'as changé, on voit bien, faut pas non plus dire, ah non, il n'y a rien qui se passe en moi, ça c'est pas vrai. Mais il y a parfois des choses qui reviennent, hein, on croit que ça a été crucifié, que on est libéré, et puis parfois ça revient et on se demande pourquoi. Crucifier la vieille nature, crucifier ses passions, ses désirs, c'est pas du tout évident. Mais j'aime à me rappeler qu'on a un Dieu de grâce, qu'on a un Dieu de pardon, un Dieu qui compatit à nos faiblesses, et surtout, j'aime à me rappeler qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. En tout cas, je pense qu'en aimant les autres, on peut faire tomber bien des barrières. On peut arriver à gagner la confiance des autres qui auront peut-être plus de liberté pour partager leur fardeau. Parce que nous sommes appelés non pas à vivre comme un rassemblement d'individus, mais on est appelés à vivre comme une communauté. On n'est pas des membres éparpillés, mais on est un corps. On a tous reçu en tout cas cet appel à aimer comme Christ nous a aimés. Et nous avons en nous l'Esprit Saint qui lui nous donne cette possibilité d'aimer. L'apôtre Paul a dit aux Romains que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen.